l'actu des oubliés. Saison 6. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, nous retrouvons le drapeau pirate à chapeau de paille, symbole des révoltes qui se sont répandues de l'Indonésie à l'Équateur ces dernières semaines. Après le Népal, nous nous intéressons à Madagascar, au Maroc et au Pérou, dans ce troisième épisode de la saison 6. Mila Giraud, Mila Rano, besoin de lumière, besoin d'eau, premier slogan hurlé dans les rues de Madagascar en ce 25 septembre. La jeunesse malagasy, suivant l'inspiration venue d'Asie, réclame la fin des coupures et des pénuries, le droit à une existence digne plutôt qu'à une survie permanente. L'entreprise nationale Jirama ne tient plus le rythme et certains quartiers n'ont plus d'eau depuis plusieurs mois. Ailleurs, l'électricité n'arrive que quelques heures par jour. L'entreprise tente quelques explications. Conditions climatiques, hausse de la demande, les raisons sont peut-être réelles, il n'empêche que l'inconvénient du service public excède. De nombreuses manifestations se sont déjà tenues ces derniers mois. Habitantes et habitants descendent un peu partout dans les rues, expriment leur ras-le-bol en brûlant des pneus, en bloquant les axes de circulation. Par ailleurs, les rumeurs enflent sur l'existence d'un réseau mafieux lié à la Jirama, qui profiterait de l'instabilité de l'entreprise pour échapper à des enquêtes lancées autour du détournement massif de carburant. Au-delà de l'énergie, les services publics de première nécessité sont en péril. Les hôpitaux manquent de personnel et souffrent de pénurie de matériel. Les écoles sont exsangues, tandis que les grands projets d'aménagement coûtent cher au pays. À l'image d'un téléphérique construit à grands frais dans la capitale Antananarivo, en partie financé par la France et dont le prix du ticket réserve de fait son usage aux plus aisés. Faute d'électricité, il ne fonctionne que quelques heures par jour via des génératrices d'appoint gourmandes en gasoil.
On marche dans la nuit sans lumière, sans bruit, nos rêves coupés comme l'électricité. On veut juste vivre, pas survivre, mais le système veut qu'on s'éteigne, qu'on dérive. T'as nos larmes, t'as un matin, t'as un souli. J'ai des amis, font un mes amis, des nids. On veut l'eau, on veut la vérité. On veut pas juste exister.
À Madagascar, où deux tiers de la population a moins de 30 ans, la Gen Z réclame aussi la baisse des tarifs d'accès à l'Internet. Si les universités sont dotées d'accès au web, la connexion est souvent capricieuse. Une majorité d'étudiants n'a pas de quoi se payer un fournisseur privé. Faute de moyens, écrire un mémoire est rapidement complexe. C'est d'ailleurs grâce à la clandestinité en ligne que sur les plateformes, la résistance s'organise. Comme l'explique une manifestante sur France 24.
Les protestations au Népal ont été un moment clé pour la création du mouvement Gen Z Madagascar. Relayées largement sur les réseaux sociaux, ces protestations en Asie ont joué un rôle majeur dans l'éveil collectif. Ça nous a redonné espoir et montré qu'il est possible de renverser le système, que les jeunes peuvent prendre leur destin en main, que la situation du pays n'est pas une fatalité.
Par à-coup, des manifestations se déroulent en écho à ce qu'il se passe au Népal. Le 19 septembre, deux élus de l'opposition à la mairie d'Antananarivo manifestent en brandissant des bidons jaunes, symbole de la pénurie d'eau. Alors qu'ils appellent à sortir dans les rues le 25 septembre, ils sont arrêtés. Leur coup d'éclat déclenche une vague de solidarité sur les réseaux. Le 24, les élèves de l'école polytechnique de la capitale sortent à leur tour, excédés par les coupures d'électricité dans leurs locaux. Ils sont reçus par des gaz lacrymogènes et répliquent à coups de pierre. En réponse, le collectif de la Gen Z de Madagascar multiplie les appels à déferler.
On veut pas juste exister, l'essence à nous dise d'attendre demain. Mais demain c'est trop loin, nos cœurs brûlent comme les câbles de Jirama. Tu mis la démocratie à la Tunisie face à Havana. On n'a plus rien à perdre, nos voix traversent les murs. Les rues de Tana pleurent, mais la jeunesse endure.
Et c'est sans surprise que la Gen Z envahit les rues. Léo B, Léo B, on en a marre. Les agressions policières excèdent plus encore une population guidée par sa jeunesse. Alors que les affrontements font rage aux abords de la place de la démocratie, une station du téléphérique tant décriée est incendiée. Plus loin, les résidences de deux députés et d'une sénatrice du parti au pouvoir prennent feu, elles aussi. Les balles réelles se mêlent aux tirs de flashball et plus de 400 personnes sont transférées à l'hôpital avec de vilaines blessures. Les gaz lacrymogènes envahissent en grande densité des zones entières de la ville, y compris à proximité d'écoles, de nurseries et d'habitations, causant la mort par asphyxie de plusieurs nourrissons. Le soir venu, de nombreux magasins sont pillés et incendiés. Mais aussitôt, le collectif de la Gen Z se désolidarise. Ces comportements révèlent de groupes extérieurs dont les intentions et les méthodes s'opposent à l'esprit qui a guidé notre action. Alors qu'un couvre-feu est instauré dans la capitale, les mises à sac reprennent le lendemain. Des images montrent pourtant les forces de l'ordre assister au pillage sans réagir. Comme le dénonce l'ONG Tolo Tsoa, le décalage est énorme entre la répression intense des marches d'abord pacifiques de la veille et l'absence de réaction de la police face au pillage. Gina Tsirofo, Rantse Razakari Soa, écrit dans Afrique 21.
Le bruit de la répression a servi à couvrir le bruit du vol. L'État a été d'une inaction flagrante face aux pilleurs. Il est donc impossible de ne pas y voir une tentative de discréditer la Gen Z en lui faisant porter le chapeau de la destruction, tout en laissant des profiteurs s'enrichir.
On accuse le gouvernement de faire appel à des hommes de main pour répandre le chaos. Et alors que les manifestations se poursuivent, le président Rajoelina réplique en accusant la jeunesse de son pays d'être victime d'une cyberattaque venue de l'étranger. Le pouvoir est fébrile. Rajoelina limoge d'abord son ministre de l'énergie, puis le 30 septembre, l'entièreté de son gouvernement. Or, c'est de lui qu'il s'agit désormais. En quelques jours, le slogan mis à la Rajoelina, « Rajoelina dégage », devient le principal mot d'ordre. Le président est mal aimé depuis son élection en 2023, qui fut boycottée par l'opposition et qu'il a remporté sans véritable concurrent. Gina Tsirofo Rantse Razakarisawa écrit encore.
Ce qui a commencé par un simple ras-le-bol contre ces foutues coupures d'électricité et le manque d'eau s'est transformé en une demande unique criée par la jeunesse, la démission du président Henry Rajoelina. Ça n'est plus juste une histoire de manque de service, c'est une question de dignité.
La répression devient sanglante. Entre fin septembre et début octobre, on déplore près d'une trentaine de morts. Dans une marche, une pancarte surgit comme un cri. Nous demandons la vie, ils nous donnent la mort. C'est alors que les premiers noms du nouveau gouvernement sont divulgués dans la presse. Pour ramener l'ordre, priorité est donnée aux ministres de la Sécurité intérieure, de la Gendarmerie et de l'Armée. Il n'en faut pas davantage pour que la Gen Z y voie un signe que la répression va encore s'amplifier. Elle appelle alors à la grève générale pour faire tomber le président. Et elle est suivie. Le 11 octobre, alors que les marches reprennent massivement, un régiment de l'armée refuse même d'ouvrir le feu sur son peuple. Alors que le président dénonce une tentative de putsch, une vidéo est publiée sur les réseaux. Le colonel Michael Randrianirina appelle toutes les forces de sécurité, armée, police et gendarmerie, à désobéir à leur hiérarchie pour rejoindre les manifestants. Le lendemain, Rajoelina, qui a la double nationalité malagasy et française, est exfiltré jusque l'île de la Réunion à bord d'un avion militaire français. Le désormais ex-président, ancien protégé de Nicolas Sarkozy, tente de demeurer l'expression du pouvoir, mais plus personne n'y croit. Sauf peut-être Emmanuel Macron, qui appelle à la continuité constitutionnelle sur l'île de Madagascar. Dans les rues d'Antananarive, la posture de l'ancienne puissance coloniale est dénoncée. Le colonel Michael Randrianirina, le responsable militaire qui a choisi de se ranger derrière, ou plutôt devant la Gen Z, est finalement proclamé président de la refondation de la République de Madagascar par la Haute Cour constitutionnelle. Il annonce une rupture, une refondation, où les revendications de la Gen Z sont édifiées en priorité. Il remercie la jeunesse qui, d'après ses mots, éclaire l'avenir de Madagascar et permet d'écrire une nouvelle page dans l'histoire du pays. Lors de sa cérémonie d'investiture, symbole, l'ambassadeur français n'est placé qu'au quatrième rang, derrière les ambassadeurs anglais, allemands ou russes. Mais comme le reconnaît Elliot Randriamandrato, porte-parole du mouvement, tout reste à faire. Dans l'histoire de l'île, c'est un phénomène qui se répète. En 2009, Rajoelina avait déjà accédé au pouvoir à la faveur d'un soulèvement contre son prédécesseur, lui-même arrivé à la tête du pays après une révolte. Troisième fois en 20 ans donc que le peuple malagasy doit se rebiffer contre les fausses promesses d'un changement profond. Le parallèle avec le Népal est saisissant. Partout, le soulèvement de la Gen Z semble marquer un profond besoin d'enrayer le dysfonctionnement des institutions politiques et la normalisation des pratiques extra-constitutionnelles des dirigeants. Avec les réseaux, la corruption et le népotisme des élites apparaît au grand jour. Et souvent, les révolutions passées apparaissent trahies, parfois par ceux-là même qui sont arrivés au pouvoir grâce à elles. Le 21e siècle est aussi celui d'une jeunesse consciente de l'importance de l'accès aux études supérieures. La préservation et l'amélioration d'une éducation gratuite est non seulement l'une des revendications principales de la Gen Z, mais c'est aussi cette présence sur les campus qui lui permet de s'organiser et de se faire entendre, comme ça a pu être le cas avec le mouvement solidaire planétaire pour la Palestine. Car ces révoltes sont aussi celles d'une génération qui sait comprendre et déjouer les manipulations et les faux discours des élites mondiales, tant sur le plan de la dette économique que sur celui des prétendues valeurs d'un Occident désormais complice devant le monde entier du génocide à Gaza. Face au néo-fascisme qui guette partout, la Gen Z propose finalement un nouveau paradigme. Un habitant d'Antananarive confie à Blast:
je crois que cette jeunesse va faire naître une nouvelle forme de politique. Parce que la politique, on ne peut pas la fuir. On la vit tous les jours et il faut s'en réemparer.
Ils peuvent couper le courant par nos âmes. Chaque cri devient une flamme. Madagascar se réveille lentement. Mais cette fois, c'est nous le changement. Parle pas nos âmes, parle autant. Dis-moi t'as autant de souvenirs. On veut l'ouvre la vérité. On veut pas juste exister.
Ils peuvent couper le courant, pas nos âmes.
Au Maroc, la colère de la Gen Z est directement liée au grand cirque des élites mondiales. En l'occurrence, la préparation de la prochaine Coupe du Monde de foot et le détournement des dépenses publiques au service du train de vie indécent des puissants. Et c'est encore une fois la symbolique du manga One Piece qui est invoquée, prolongeant la symbolique d'un pays à l'autre. Un manifestant dit ainsi sur France 24:
c'est un langage commun à toute notre génération. Dans cette histoire, on se rend compte que les vrais méchants sont la marine et le gouvernement. Ils sont censés aider le peuple, mais ils sont corrompus et servent uniquement leurs intérêts. Les vrais gentils sont les pirates. Et puis il y a cette idée que cette histoire est toujours écrite par celui qui gagne. La police, les militaires et les gouvernements disent protéger le peuple. Mais ils utilisent les médias pour créer une propagande et faire croire que les pirates sont ceux qui font le mal.
Dans le royaume de Mohamed VI, l'étincelle est venue de l'hôpital d'Agadir. En 10 jours, 8 femmes y perdent la vie après un accouchement par césarienne. En cause, l'absence de disponibilité du personnel hospitalier et le manque de matériel médical. Quelques jours plus tard, lors du second anniversaire du séisme d'Al-Haouz, dont nombre de victimes vivent encore sous des tentes dans l'indifférence du pouvoir, le gouvernement célèbre en grande pompe l'inauguration d'un nouveau stade de foot. Les deux événements soulèvent une indignation qui se répand comme une onde de choc. Une manifestante de la Gen Z explique sur CrimeThink:
et alors que tout semblait sombre ici, nos écrans ont commencé à se remplir d'images, de vidéos et d'articles sur la révolution népalaise. On peut affirmer sans risque de se tromper que sans le Népal, la jeunesse marocaine ne se serait pas soulevée comme elle l'a fait. Ainsi, lorsque la première manifestation du corps médical a éclaté à Agadir, des individus ont commencé à s'organiser. C'était 2 semaines avant les premières manifestations des 27 et 28 septembre.
Quelques jours plus tard est en effet créée une page Facebook au nom évocateur, Gen Z 212, en référence à l'indicatif téléphonique du Maroc. Et alors qu'outre les manifs de solidarité à Gaza, les questions sociales et politiques mobilisent assez peu au Maroc, cette fois, c'est la déferlante. Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech ou Meknès sont noirs de monde, de jeunes surtout, parfois à peine sortis de l'enfance.
Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce qu'ils demandent n'est pas impossible, ce sont des nécessités au Maroc.
Les revendications sont claires. D'abord la démission du gouvernement, qui prolonge une politique qui paupérise les classes moyennes et populaires. Aziz Arhanouch concentre nombre de ressentiments. Il est non seulement chef du gouvernement, mais aussi maire d'Agadir, où l'hôpital est si mal géré. C'est en outre l'une des plus grandes fortunes du pays, avec un empire qui va de l'immobilier au carburant. En 2022, lorsque le prix du gasoil explose, il est accusé de conflit d'intérêts puisqu'il est propriétaire de la chaîne de stations-service Afriquia et que plus la crise perdure, plus il s'enrichit. Les contestataires réclament donc la fin de la corruption et surtout le recadrage des dépenses publiques, ce qu'ils appellent les priorités mal placées du gouvernement. On veut des écoles, pas des stades, entend-on dans les rues. Ou encore, la santé en premier, on ne veut pas de la Coupe du Monde. Il faut dire que la folie des grandeurs s'est emparée du royaume depuis la qualification de l'équipe nationale au demi de la dernière Coupe du Monde. En grande pompe, d'immenses stades sont construits pour accueillir la Coupe du Monde 2030, tandis que les services publics décrépissent. Celui de Casablanca, qui sera le plus grand stade au monde avec ses 110 000 places, coûtera près d'un demi-milliard d'euros. Dans la marche, une pancarte dénonce: contrairement à nos hôpitaux, les stades de la FIFA devraient au moins avoir un kit de premier secours. Au niveau local, la colère est aussi provoquée par le nettoyage social et la gentrification qui vient, comme à chaque grand événement sportif mondial. Afrique du Sud 2010, Brésil 2014, jusqu'à l'odieuse Coupe du Monde au Qatar et aux JO de Paris, chacun de ces événements est accompagné de son lot de quartiers détruits, d'une sérieuse augmentation des prix et d'une militarisation de l'espace public. À Casablanca, le nouveau stade est prétexte à la construction d'une longue avenue reliant la mosquée Hassan II au centre-ville, avec immeubles de standing, palais des congrès et théâtre de luxe, sur les ruines du quartier populaire de Derb Soufi, dont les habitants et habitantes ont été priés d'aller se faire voir ailleurs. En ajoutant le quartier Yacoub El Mansour à Rabat, on parle de 13 000 familles délogées, dont les représentants dénoncent l'insuffisance des compensations versées. Face à ce qui est considéré comme un gaspillage d'argent public au profit de l'élite, on évoque aussi les victimes du séisme du Azouz, dont beaucoup vivent encore sous des tentes alors que 2 ans se sont écoulés depuis la catastrophe. Aux yeux de tous, l'État place le spectacle de la FIFA avant les victimes de catastrophes naturelles, avant la santé publique, avant l'accès à l'eau potable.
Nous ne voulons ni football ni rien d'autre. Si le football avait été bon pour nous, ça fait longtemps qu'il aurait profité à la jeunesse. Nous voulons la santé, car nos parents souffrent.
Or, ce 27 septembre, le pouvoir refuse la contestation. La répression qui s'abat est impressionnante. Les forces de police s'emploient systématiquement à rendre impossibles les rassemblements, pourchassant les contestataires jusqu'à la dispersion, arrêtant à tour de bras. À Rabat, un jeune parvient à crier
« Nous sommes pacifiques et vous nous opprimez. Nous ne sommes pas des criminels. Nous voulons un Maroc de justice, d'hôpitaux, d'éducation. Est-ce trop demandé pour un pays qui s'apprête à accueillir la Coupe du Monde ?»
Autour de lui, des sifflets éclatent, des voix scandent « Liberté, dignité, justice sociale !» avant que la police n'intervienne à nouveau. Ce samedi-là, être jeune et sortir dans les rues semble être une raison suffisante pour finir en garde à vue. Le lendemain, la Gen Z est prévenue. Elle change les points de rendez-vous au dernier moment, multiplie les appels. À Rabat, à chaque heure, des jeunes se rassemblent en des endroits différents. Systématiquement, la police arrive rapidement, encercle la place, charge. C'est ainsi qu'entre les slogans criés à chaque coin de rue et les tabassages sauvages, une fracture apparaît dans l'image de parfaite vitrine de l'Afrique que le roi voulait donner à son pays. Les images les plus choquantes de la répression font le tour du pays, comme ce jeune homme jeté dans un fourgon de police avec sa fille accrochée à lui dans son porte-bébé. Ce qui devait être un week-end de contestation est en réalité un point de départ. Chaque jour, le chassé-croisé entre petits cortèges et forces de l'ordre se poursuit. Le 30 septembre, la jeunesse répond à la violence incessante de la police, avec des carrefours occupés par des feux de palettes, des voitures incendiées ou des jets de pierre. Par endroits, la police révèle sa barbarie, et des drames surviennent. À Oujda, un camion fonce sur la foule. Un jeune homme doit être amputé d'une jambe. À Marrakech, les chars de l'armée font face aux jeunes et des centaines d'entre eux sont arrêtés sur l'une des places les plus touristiques au monde. Le 1er octobre, à Lake Lia, en banlieue d'Agadir, la gendarmerie ouvre le feu sur des jeunes rassemblés. 3 d'entre eux tombent sous les balles, dont un documentariste étudiant en cinéma, et de nombreuses autres personnes sont blessées. Dans la soirée, le pays s'embrase encore et des banques sont attaquées et incendiées, notamment à Salé. Sur le compte Discord de Gen Z 212, la communauté se réunit et vote la poursuite du mouvement. 176 000 personnes ce soir-là. Chaque jour, ce compte communautaire gagne plusieurs dizaines de milliers d'inscrits. Il atteint rapidement 200 000 personnes. Il abrite débats, annonces de rendez-vous et votes populaires lors des décisions importantes. Sa présentation indique « Nous n'appartenons à aucun parti ni mouvement politique. Nous sommes une jeunesse libre. Notre voix est indépendante. Notre seule revendication est la dignité et les droits légitimes pour chaque citoyen. » Alors, le 2 octobre, c'est une nouvelle marée humaine qui descend dans les rues. Cette fois, les forces de l'ordre se font plus discrètes. Les rassemblements peuvent se tenir. La Gen Z vient de conquérir son droit à la protestation. Et c'est bien là le premier pas. Car ce que vient chercher la Gen Z, ce n'est pas une conquête du pouvoir, mais une transformation profonde du paysage politique en démontrant qu'il est impossible d'ignorer ses demandes. «
قولينا سيدي لبدوم الفاد مدينة البوطة جديدة غالية علينا رحنا تشقارنا تشكايسو علينا خطة باش ترشيونا وكيكم الله وهدار سيدنا وكيكم الله وتدخل سيدنا مسؤولين قمعونا في حقوقنا زحمونا خنقونا قتلونا ما كارو شكون يطحنونا كيف ترجعونا شين وسترونا شين وسترونا.
Avec ses 7 chefs d'État en 10 ans, le Pérou est l'un des pays les plus instables au monde. Il y a 4 ans, Pedro Castillo, le candidat populaire et soutenu par les peuples indigènes, en particulier andins, crée la surprise en accédant au pouvoir sur fond de grogne sociale. Un an plus tard, son mandat est un échec. L'ensemble des partis présents au Congrès s'unissent incessamment pour faire dérailler ses réformes. Dans l'impasse, il cherche à dissoudre le Parlement, mais la procédure est complexe au Pérou et il se prend les pieds dans le tapis. Accusé de putsch, il est destitué par l'Assemblée pour incapacité morale. Pour cela, il a fallu que sa vice-présidente et supposée alliée le trahisse pour prendre sa place. Dina Boluarte est aussitôt conspuée par le peuple, accusée d'avoir conclu un pacte avec ce que les peuples des Andes nomment la mafia du Congrès. Une révolte majeure éclate durant 3 mois. Le pays est bloqué de Cusco à Arequipa en passant par Ayacucho. La répression est invraisemblable et entachée de racisme envers les peuples andins, causant la mort d'au moins 49 personnes. Or, si le calme revient très progressivement, dans les têtes, la révolte n'a jamais cessé. Boluarte garde les rênes tout en étant la chef d'État la plus détestée de l'histoire d'un pays qui semble sombrer, année après année, dans l'insécurité mafieuse. C'est dans ce contexte que près de 3 ans plus tard, le 9 octobre dernier, le groupe de cumbia Agua Marina, monument national puisqu'il atteindra les 50 ans d'existence l'an prochain, se produit en concert. Une fusillade éclate et 5 membres du groupe sont touchés par des tirs volontaires. La raison ? Ils avaient refusé de payer un impôt mafieux pour se produire. C'est à l'image de ce qu'est devenu le Pérou. Cette année, 180 chauffeurs de bus ont été tués pour avoir refusé de payer une telle taxe. L'extorsion est devenue la norme et le meurtre la manière commune de punir ceux qui refusent de s'y soumettre. Et dans le même temps, Boluarte annonce fièrement à l'ONU qu'elle a renforcé l'image du Pérou comme pays qui défend et respecte la paix, la liberté et la démocratie. Or, voilà déjà 2 semaines que la Gen Z marche pour réclamer des aménagements au système des retraites. Sous le nom « Unis pour le Pérou que nous méritons », la jeunesse pose ses revendications, et malgré les gaz lacrymogènes, la mobilisation est massive et la colère palpable. Craignant peut-être un soulèvement généralisé, le Congrès accède à sa demande. Forte de cette victoire, la Gen Z poursuit les manifestations pour dénoncer la répression, l'insécurité et la ruine des institutions. Le nombre de scandales qui entachent la classe politique est incalculable. L'impression qu'elle ne fait qu'un avec des réseaux mafieux se généralise. Début octobre, les syndicats des transports rejoignent la Gen Z en lançant des grèves générales à Lima et Callao. Alors, avec la fusillade d'Agua Marina, c'en est trop. Profs, professionnels de la santé, du transport, syndicats et organisations de peuples indigènes, tout le pays est dans la rue sous l'impulsion de sa jeunesse, en chantant « Que se vayan todos », qu'ils s'en aillent tous, ou encore « Non à l'état terroriste ». Le jeudi suivant, Dina Boluarte est destituée. Piston d'un congrès qui s'auto-entretient dans une gestion désastreuse du pays, la présidente laisse les rênes jusqu'à l'élection présidentielle qui se tiendra en 2026. Selon la constitution, celui qui la remplace est le président du parlement, José Herrera. Or, l'homme est soupçonné d'enrichissement illicite lorsqu'il siégeait à la commission du budget du Parlement. Pire, il vient d'être disculpé d'une plainte pour viol par un procureur lui-même accusé de corruption. Enfin, en nommant au poste de Premier ministre Ernesto Alvarez, qui qualifie les protestataires de terroristes, il annonce la couleur véritable de son programme politique. La démission des 2 hommes est immédiatement réclamée par la rue. Mais ce qui est profondément exigé, c'est le refondement total de la sphère politique et des institutions péruviennes. Jorge Falcón, architecte de 26 ans, commente à l'AFP.
Le pouvoir exécutif va et vient. Mais le véritable problème réside au sein du Parlement, beaucoup plus difficile à éliminer. Et ce sont eux qui font les lois.
Le 15 octobre, une grande marche est convoquée. Batucadas, clowns et jongleurs défilent sur l'avenue Abansai, à proximité du Congrès. Dans le Pérou d'aujourd'hui, chanter en quichua est un acte politique, lance Tamayo, en référence aux nombreux crimes racistes de la police durant le soulèvement de 2022. Des pancartes dénoncent la mafia congressiste, clamant par exemple « José Titeri, yo no te elegí, José Marionette, moi, je ne t'ai pas élu ». Dans la marche, les revendications écologistes sont également là, contre la déforestation, contre les projets miniers, contre toutes les lois qui détruisent l'écosystème et profitent aux groupes criminels. Dès la fin septembre d'ailleurs, une mine de la multinationale canadienne avait dû suspendre ses opérations face à des blocages organisés. Les féministes sont également présentes en masse. Comme le dit l'historienne Lisselle Quiros dans France 24, elle dénonce le fait qu'un homme accusé de viol puisse être député et président. Une grande banderole est déployée, clamant « José Reilly, président du Pérou, violeur ». Ces femmes protestent aussi contre un État qui exerce une violence systémique envers les femmes depuis des décennies. Elles réclament encore, pour nombre d'entre elles, que justice soit faite pour les 300 000 personnes stérilisées de force sous Alberto Fujimori entre 96 et 2000.
Andando lento y perdiendo el encanto, en cuanto santo vas a refugiarte, si el cartón no puede salvarte ni para abrigarte.
Un homme déguisé en Spider-Man grimpe sur tout ce qu'il trouve, le drapeau du pirate à chapeau de paille à la main. On le voit aussi peint sur des banderoles, planté sur des barricades, maintenu flottant dans le vent par des manifestants alors que la police tire au flashball, car la répression monte d'un cran. À 19h, les premiers affrontements ont lieu. Prétextant la présence d'un petit groupe violent, la police ferme tous les points de sortie de l'avenue et gaz en masse. La foule se défend, les barricades se dressent, les rangs compacts des forces de l'ordre sont arrosés de feux d'artifice. Ce soir-là, le rappeur Truco est tué par la police. C'est lui que l'on écoute en ce moment.
Narcos y bancos con Dios, transnacionales gobierno con Dios, ejércitos, iglesias aliaron con Dios.
¿Cuál Dios?
Ese que está matándonos. Narcos y bancos con Dios, transnacionales gobierno con Dios, ejércitos, iglesias aliaron con Dios.
¿Cuál Dios?
Ese que está matándonos.
Dans les jours qui suivent, les amis de Truco lui rendent hommage en peignant d'immenses fresques à son effigie dans la capitale péruvienne.
Quand un luchador social muere,
nunca muere.
Quand un luchador social muere,
nunca muere.
Justicia para Truco, justicia para Truco.
Face à la répression sanguinaire et aux manipulations qui menacent ces révoltes, l'avenir de la Gen Z est forcément incertain. Ce qui est sûr, cependant, c'est qu'il est lié à une nouvelle manière d'œuvrer pour un monde plus juste. Première idée, nous sommes tous dans le même bateau. Un manifestant d'Antananarivo estime dans Blast
« Que ce soit entre le Népal, le Pérou ou ici, il y a un truc qu'aucun chef d'État ne pourra nous enlever. C'est qu'on est tous connectés et que d'une seconde à l'autre, on peut savoir ce qu'il se passe à l'autre bout du monde. » Cette Gen Z peut changer le monde.
Deuxièmement, la Gen Z constate partout que le pouvoir corrompt. Loin de vouloir remplacer une élite par une autre, les récents soulèvements expriment un besoin de changement radical de système. À minima, un contrôle renforcé du politique par le peuple. À Madagascar, lorsque le 28 octobre, un nouveau gouvernement est nommé, la Gen Z lui fait un accueil réservé. Ce qu'elle veut avant tout, c'est garder le contrôle face aux fausses promesses. Première étape, la loi de finances. Fait inédit dans l'histoire du pays, Gen Z, société civile, secteur privé et syndicats se sont réunis sur une plateforme pour annoncer ce qu'ils attendaient de cette loi de finances. Décentralisation, reflet des priorités nécessaires à une refondation, énergie, eau, éducation, santé, lutte contre la corruption. Cette plateforme est vue par certains comme le premier pas vers un outil de contrôle populaire. Comme le décrypte Keta Kandrian Rafitoson, chercheuse en sciences politiques et membre de Transparency International sur France 24,
contrairement aux mobilisations du passé portées ou récupérées par des partis politiques, des syndicats ou des figures charismatiques, la Gen Z naît d'une indignation collective organique et s'est structurée sans leader unique, avec horizontalité et décentralisation. Cela lui donne une puissance symbolique nouvelle car elle ne répond pas à une logique de conquête du pouvoir, mais à un impératif existentiel, celui de réclamer un avenir vivable. La Gen Z n'a peut-être pas encore de projet politique formalisé. Toutefois, elle a déjà changé les termes du débat avec l'idée qu'il ne s'agit plus de survivre dans un système défaillant, mais de le transformer radicalement. Ça n'est pas une révolte passagère, c'est un changement générationnel profond qui en marche. Nous vivons peut-être aujourd'hui un moment de bascule planétaire.
Antananarivo, un nouveau jour se lève sans lumière. Coupure d'eau, coupure d'eau, on baigne dans la misère. Mais la tête haute face au chaos, on lâche pas l'affaire. Bienvenue dans le game de la Gen Z, la génération sévère. On est les Andris,
les cadets,
on a grandi sans privilège. On a vu les promesses passer, les politiciens sur leur siège. Le vieux système est rouillé, les obèses.
Y'en a marre,
c'est le message. On a troqué le trottoir pour le réseau. On change de paysage.
Gen Z Malagasy, connecté, on prend le lead. Le fia banana,
solidarité,
on lâche pas l'arrière. De Tana, toi Massina, dans Tirana, Natoliara, on crie Marina.
La vérité,
pour la transparence, pour le changement, c'est notre Alana.
Le peuple est une balise, on veut plus être.
C'était le troisième épisode de l'actu des oubliés. Merci de nous avoir écoutés. Au doublage, Vivi Isaé. Pour les sources de cet épisode, vous pouvez vous rendre sur notre audioblog L'Actu des Oubliés.
Le vide sur l'étaloir, diplômé, mais au chômage, c'est quoi le futur, c'est quoi l'espoir? On a les diplômes et les tweets, on est prêt à s'asseoir à leur table soir.
On rêve d'entrepreneuriat, de tanindrana, respecté, de compétences numériques, d'une jeunesse écoutée. On veut l'eau potable, on veut l'électricité stable, c'est vital. Pas des discours vides, on veut du concret, du capital humain qui est légal. Notre arme, c'est le smartphone, l'information qui circule vite. Face à la répression, la fierté se multiplie.
En musique, vous avez pu écouter Coupure d'État du collectif Révolution Gen Z à Madagascar, Génération Z du rappeur marocain RBNS, le collectivo Amachak Pacha, dont fait partie le rappeur Truco, assassiné au Pérou par la police, et en ce moment, Gen Z du rappeur malagasy Pixel Rima. Bon mois de novembre, prenez soin de vous, et on se retrouve en décembre pour le prochain épisode.
Porque Truco nunca muere.
Larga vida al barrio, porque Truco nunca muere.